Hello, c'est Audrey. Alors, avant que tu puisses écouter ton épisode, je voulais te dire qu'en ce moment, on célèbre l'épisode 150 du podcast Murmuricain. Et pour l'occasion, je t'ai concocté un quiz bien sympa pour tester tout ce que tu connais déjà du bien-être équin. Grâce à ce quiz, tu vas pouvoir te rendre compte que tu connais énormément de choses, et certaines questions sont aussi là pour te faire réfléchir. Mais pas de panique, à la fin du quiz, tu pourras télécharger toutes les réponses aux questions, accompagnées d'une réflexion sur le sujet. Le quiz est disponible dès maintenant sur le site internet murmure-animal.com/quiz. Quiz. Avec un seul Z. Je le répète encore une fois, murmure-animal.com/quiz. J'espère que ce quiz sera aussi divertissant qu'enrichissant et je te souhaite une bonne écoute de ton épisode. À très vite! Bonjour et bienvenue sur le podcast Murmuricain. Moi c'est Audrey et tous les vendredis, je vous partage un maximum d'informations et de pistes de réflexion sur des sujets autour de la santé et du bien-être, autant équin qu'humain. L'objectif de ce podcast est de vous apporter de la sérénité et de la sécurité dans votre couple cheval-cavalier en vous permettant de gagner en compréhension du monde équin sans jugement, mais surtout avec une bonne dose d'humour, de bonne humeur, de passion et d'ouverture d'esprit. Bonne écoute! Bonjour à toutes et bienvenue dans le nouvel épisode du podcast Murmure Équin. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Émilie de Millipat. Bonjour Émilie.
Bonjour Audrey.
Je suis vraiment ravie que tu aies accepté mon invitation aujourd'hui pour discuter de la place de créatrice de contenu dans le milieu équestre et notamment de ta place de créatrice de contenu.
Je suis super contente moi aussi d'être là.
Ah bah c'est cool. C'est vrai que ça fait un moment que je voulais t'inviter dans le podcast Murmuricain, mais que j'avais pas trouvé d'orientation d'interview qui te rendait justice. Parce qu'en effet, t'es ostéopathe animalière, mais je sentais que le sujet, mais pourquoi est-ce que l'ostéopathie c'est important? Ça allait pas avec tous les efforts que tu mets pour rendre le monde équestre meilleur. Et puis, il y a pas longtemps, j'ai eu l'illumination, je me suis dit, mais en fait, t'es pas que une ostéopathe animalière. Et aussi et surtout une défenseuse. Alors, ce mot existe, je l'ai cherché.
Je le crois.
Défenseuse des chevaux. Et c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Alors, pour les personnes qui ne te connaissent pas, est-ce que tu peux te présenter assez rapidement ?
Eh bien, bonjour à tous et merci beaucoup Audrey pour ton invitation. Je suis vraiment trop contente d'être dans ton podcast que je suis attentivement d'ailleurs. Peut-être que j'ai loupé 2-3 épisodes, c'est possible, mais vraiment pour la grande majorité, je les ai écoutés. Donc, je m'appelle Émilie, je suis ostéopathe animalier, parce que je préfère le terme animalier à animalière, mais c'est juste une question de préférence phonétique. Depuis maintenant peut-être 5 ans ou 6 ans, donc j'ai pratiqué en tant qu'ostéopathe animalier pendant jusqu'à maintenant en fait, donc jusqu'à 5 ans, pendant 5 ans, et j'ai été formatrice en ostéopathie animale pour des matières pratiques et théoriques jusqu'à là cette année, et il y a 4 ans j'ai décidé de lancer Millipat, donc vraiment un an après mon installation, dans un but de pouvoir expliquer ce que je passais mon temps à répéter en consultation.
Millipat, du coup, c'est une chaîne YouTube et un compte Instagram.
Exactement, c'est ça. Au début, c'était un compte Instagram. Et puis, je me suis vite retrouvée limitée par rapport aux vidéos à poster. Et donc, c'est pour ça que je suis passée sur YouTube après.
Si des fois, il y a des gens qui ne te suivent pas encore, il y aura le lien en description de l'épisode pour qu'ils puissent te retrouver sur YouTube et Instagram.
Oui, parce que je suis très active sur Instagram, donc les gens me suivent assez facilement. Par contre, j'ai moitié moins d'abonnés sur YouTube, alors que le contenu est quand même tout aussi qualitatif en termes de fond.
Forcément, il est plus fouillé dans une vidéo de 15-20 minutes que dans un réel de 1 minute.
Exactement. Et puis, ça me demande beaucoup plus de temps à faire aussi, donc...
Donc, si des fois, il y a des personnes qui sont abonnées à toi sur Instagram... qui ne le sont pas sur YouTube, allez vous abonner sur YouTube.
Yes, go on YouTube.
Est-ce que du coup tu peux me raconter un peu comment ça s'est passé au niveau de tes études, quelles études t'as fait et pourquoi t'avais choisi ces études ?
Alors, quand j'étais petite, j'avais trois métiers de rêve. Je dis toujours deux, mais en fait, ma maman m'en a rappelé un il n'y a pas longtemps. Justement, quand je lui ai dit que j'allais m'investir davantage dans Millipath, elle m'a dit, mais tu fais vraiment tes trois métiers réunis de quand tu étais petite. Je voulais être à la fois vétérinaire, à la fois kiné et à la fois journaliste. Et finalement, si on mixe les trois ensemble, ça donne presque Millipath. Il y a juste ma petite touche personnelle en plus. Du coup, moi, j'ai fait une scolarité classique jusqu'au bac scientifique. Ensuite, j'ai fait 2 ans de prépa pour les classes, enfin de classes préparatoires pour faire des écoles véto. Pourquoi j'ai choisi ça entre les trois? Bah, parce que c'est celui qui rapportait le plus d'argent et qui offrait la plus grande aisance financière, etc. Donc, j'ai choisi vétérinaire dans un premier temps. Et puis, au final, j'ai eu des problèmes de santé à la fin de ma 2e année de prépa, ce qui m'a empêché de passer les concours. Et je n'ai pas du tout eu envie de redoubler ma 2e année. Donc, je suis partie en école d'ostéopathie animale, juste après. Donc, j'ai fait mes 5 ans d'études et voilà.
Oui, parce que c'est le moment, il me semble, le moment où tu es rentrée en école d'ostéopathie, c'est le moment où justement il n'était plus forcément obligatoire d'être passé par vétérinaire pour faire ostéopathe.
Oui, dans mon école, dans l'école que j'ai faite, j'étais la première formation post-bac, la première promo de formation post-bac. Tous les autres avant, soit ils avaient déjà un bac plus je ne sais pas combien dans autre chose, et donc ils avaient une formation professionnels en plus d'ostéopathe animalier, soit sinon ils étaient vétérinaires, soit sinon ils étaient ostéopathes humains spécialisés en animal.
Donc t'es allé vers tes métiers de rêve.
Mais ouais, mais sans m'en apercevoir. Hein. Moi j'avais visé vétérinaire, je me retrouve avec un mix des trois en fait.
Ouais, c'est plutôt pas mal. C'est plutôt bien réussi.
Ouais, je trouve. Je suis contente.
Ouais, je trouve que c'est bien. Et du coup, quand, comment et pourquoi est né Millipath? Quels sont les débuts de Millipath?
Eh bien, déjà, il faut savoir aussi que depuis que je suis toute petite, je fais des montages vidéo de vacances.
Ah ouais? C'est-à-dire
que j'avais genre 10 ans, on m'a offert ma première petite caméra comme ça, là, toute compacte. Et on est parti en Corse une semaine et j'ai filmé toute la Corse et je suis rentrée, j'ai passé 3 jours sur l'ordi et j'ai ressorti un montage de notre semaine de vacances en Corse, qui d'ailleurs était affreuse, n'allait pas en Corse au mois d'avril, il pleut. Bon. et donc en fait j'ai toujours fait plein de montages, quand j'ai eu mon cheval je faisais 10 000 montages à chaque concours, je filmais tout le monde, etc. Je leur envoyais leurs petites vidéos personnalisées. Donc, la vidéo avait déjà une place importante pour moi depuis toute petite. Et quand je suis sortie d'école, déjà pendant toute ma scolarité, j'étais fan d'un conte qui s'appelle Major Mouvement, qui est un kiné qui fait de la thérapie manuelle et qui vulgarise les pathologies, les tendons, nanana, les étirements, pourquoi, comment, où, etc. Et je me disais, c'est dingue, on n'a pas ça dans le milieu animalier. Alors que pourtant, il y a plein de trucs qu'on fait tout le temps. On a plein d'espèces de petits rituels de tirer les antérieurs une fois qu'on a sanglé, etc., etc. Et personne ne nous dit comment le faire, est-ce qu'il y a une bonne manière de le faire, pourquoi est-ce qu'on le fait, est-ce que ça a un impact sur quelque chose, etc. Et moi, avec toutes mes études d'ostéopathie animale, eh ben, j'avais une dose de connaissances. Je me disais vraiment, les propriétaires, ils seraient heureux de savoir tout ça, en fait. Et je pense vraiment que ça leur serait utile. Donc ça, c'est une des premières raisons. Et puis après, en consultation, je me suis retrouvée à devoir expliquer vraiment, dans une journée avec 8 consultes, j'expliquais à 5 consultes la même chose, quoi. Et je me suis dit, mais c'est pas possible, il y a vraiment un manque de connaissances, de base, où en fait, si tous les propriétaires savaient ça, et bah déjà, par fainéantise, moi, j'aurais plus besoin d'expliquer.
Mais là, tu gagnerais du temps.
Exactement. Et puis surtout que, bon, tu l'expliques une fois, ça va. Tu prends le temps d'expliquer, de montrer sur le cheval, machin. Exactement. Au bout de la 40e fois, au final, tu finis par plus expliquer. Et c'est comme ça qu'on se retrouve avec des ostéopathes qui parlent pas du tout de leur séance et qui juste font leur boui-boui dans leur coin et après, ils se barrent, tu vois. Et pour moi, ça, c'est pas possible. Il faut que j'explique à chacun de mes clients ce que je fais sur leur cheval, pourquoi, le pourquoi du comment, quoi.
Et ouais, tu perdais en qualité de tes séances, en fait.
Ah mais ouais, parce que ça me saoulait d'expliquer des trucs. Ah, après, okay. dans ce que je faisais, moi, dans mes mains, c'était la même chose que sur les autres séances. Mais au niveau de ce que le propriétaire avait compris, c'était plus du tout la même chose, quoi. Donc, je me suis dit, il faut faire comme Major Mouvement et aller expliquer et aller sensibiliser aux pratiques manuelles, aux envahissements myélomériques, chose que je n'ai toujours pas fait, d'ailleurs. Alors que c'était en partie pour ça que j'ai créé Millipath, et 4 ans après, je ne l'ai toujours pas expliqué. Et ma première vidéo, ça a été sur l'accrochement de rotules, qui est sortie d'abord sur Instagram, puis sur YouTube. N'allez pas la voir, s'il vous plaît, même si le contenu est, je trouve, assez intéressant. C'est d'une qualité... médiocre, c'est trop un bon mot, médiocre moyen, non, c'est mauvaise. Vraiment, c'est affreux, et puis ma tronche, bon. Donc n'allez pas la voir, mais pouvez aller voir les autres, par contre. Et en fait, comment est-ce que j'ai sauté le pas de faire cette vidéo-là? Eh bien, c'était grâce au Saint Graal confinement. D'accord. C'est le confinement, j'en pouvais plus d'être enfermée chez moi dans mes 25 mètres carrés en centre-ville, où il faisait super chaud, premier confinement. J'ai tourné cette vidéo-là, ça m'a amusé de le faire, et donc je me suis dit, j'ai rien à faire pendant un mois, et bien ce que je vais faire, c'est que je vais faire un jour une vidéo, le lendemain un post, le surlendemain une vidéo, etc., etc. Donc c'était des toutes petites vidéos de 3 minutes, il y en a quelques-unes que j'ai supprimées quand même, parce qu'elles n'apportaient pas grand-chose. Et puis au final, ça a pris super vite. Et je me souviens que la première personne avec un peu d'abonnés qui m'a lancée, c'est... Johanna de Feeling Équin qui m'a repartagé et j'ai passé la barre des 1000 abonnés en une nuit et je me suis dit waouh, mais trop bien, mais vraiment ça intéresse les gens, c'est trop cool. Et donc voilà, et donc j'ai continué après et j'ai évolué différemment puisque maintenant je traite plus exactement le même sujet, mais j'imagine qu'on va y revenir un petit peu plus tard.
Et donc ça c'était le but au début, enfin, ça vient de ton envie d'instruire les gens cristallisé par le confinement où t'as eu le temps.
Exactement, mais franchement c'est pour ça que je le dis, le Saint confinement, parce que franchement il nous a permis trop de trucs. Il y a des gens qui maintenant fabriquent leurs vêtements eux-mêmes, ils l'auraient jamais fait avant.
Oui, et il y a des gens qui s'instruisent sur leurs chevaux, ce qu'ils auraient jamais fait avant.
Exactement.
Et pourquoi t'as déjà un peu répondu, mais du coup t'as choisi le format YouTube parce que t'étais à l'aise avec le montage de vidéos?
Parce que on m'a déjà demandé pourquoi est-ce que j'ai pas fait un blog, par
ouais.
exemple.
Ouais.
Et ben juste parce que moi je suis pas consommatrice de blog, j'aime pas lire sur un ordinateur. J'aime bien lire des livres, j'aime pas lire sur un ordinateur. Et puis j'aime beaucoup YouTube de manière générale. Je regarde pas du tout la télé, je regarde très peu de séries, etc. Par contre, je regarde énormément de vidéos YouTube. Et du coup, je me suis habituée à ce côté très rythmé, on ne perd pas de temps, on va à l'info, et puis on met des petites blagues, et puis voilà.
Puis en même temps, tu connais les codes.
Exactement.
Et comment tu as fait tes premiers sujets? Je veux dire, à quel moment on se dit, je vais parler de l'accrochement de la rotule? C'est quand même bien spécifique. Tu vois, mais tes sujets, tu les choisis comment? Enfin, comment tu les as choisis au début, et comment tu les choisis maintenant?
Et bah, en fait, au début, comme maintenant, j'ai pas changé. C'est déjà, j'ai toujours fonctionné au feeling. C'est-à-dire que je suis incapable de me forcer à traiter un sujet que j'ai pas envie de traiter. Et c'est pour ça qu'il y a un an et demi, je suis restée peut-être 6 mois sans faire une seule vidéo parce qu'il n'y avait aucun sujet qui m'intéressait. Et puis, hop, du jour au lendemain, je deviens passionnée par la pyroplasmose et je fais une vidéo dessus en une nuit. Et je fonctionne vraiment au... cette espèce de motivation intrinsèque où tu sais pas d'où elle vient, mais tout d'un coup elle te prend et puis il faut que tu traites le sujet tout de suite maintenant. Et en général, quand elle me chope, je la lâche pas jusqu'à ce qu'elle donne quelque chose. Et ça, c'est toujours le cas aujourd'hui. Et puis, bien sûr, c'est quand même largement influencé par les actualités. Par exemple, ma dernière vidéo dont tu parlais dans le dernier podcast sur l'hyperflexion, c'est parce que c'était dans les thématiques du moment et qu'il y avait le meeting international de collectif pour les chevaux qui arrivait. Donc c'était un sujet qu'il fallait traiter maintenant et l'urgence m'a donné encore plus la motivation de le faire. Mais souvent, c'est ça, l'accrochement de rotule, c'est parce que j'avais dû certainement l'expliquer à une cliente 2 jours avant. Et je me suis dit, ah, mais c'est tout bête. Allez, je prends le temps de l'écrire et puis hop, c'est bon, en 3 minutes, tout le monde a compris.
Ta dernière personne, ton dernier cheval avant le confinement, c'était un accrochement de la rotule.
Voilà, il y a de grandes chances. Ou un message désespéré pendant le confinement. Au secours, mon cheval accroche.
Ouais, donc tu choisis des sujets qui t'inspirent, qui te plaisent. Ouais. Et selon l'actualité, en réponse à l'actualité.
Ouais. Ah si, il y a une petite modification que je fais là en ce moment, c'est que je diversifie un petit peu mes contenus parce qu'il y a de plus en plus de vlogs étant donné que je participe à de plus en plus d'événements. Mais je continue à faire des vidéos de vulgarisation de pathologies. Mais comme il y a vraiment 1 milliard de pathologies dans le cheval, j'essaye de faire en fonction du centre d'intérêt des gens qui y regardent. Et plus je sais qu'il y a de gens qui l'attendent, cette vidéo-là, plus j'ai envie de la faire, forcément. Les auditeurs me motivent aussi. Les viewers, les visionneurs, je ne sais pas comment on dit.
Les visualisateurs, les voyeurs.
Pour les gens sur YouTube qui regardent mes vidéos, quoi. Et du coup, ce que j'ai fait, c'est que dans ma vidéo sur la fourbure, j'ai demandé à ce que ils mettent en commentaire la prochaine pathologie qu'ils aimeraient que je vulgarise et je me suis engagée à faire la vidéo la plus likée. Et donc, je peux vous annoncer que la prochaine vidéo de vulgarisation de pathologie sera sur le SME parce que c'était le sujet le plus liké. Et je pense que pour ce type de vidéo-là, je vais continuer comme ça.
Et donc, tu demandes aussi l'avis des personnes ouais. qui regardent la vidéo et de qu'est-ce qu'eux, ils auront envie de voir.
Ouais. Après, ça m'est arrivé aussi 1 ou 2 fois sur Instagram de demander, mettre un petit sticker sans story, quel sujet aimeriez-vous que je traite ? Non, mais là, j'ai une liste de 300 sujets, là. Là, c'est pas possible. J'ouvre le fichier, ça me déprime, j'ai envie de tout arrêter. Donc non, c'est genre, vous mettez d'accord sur un, et puis après, on négocie.
Et vous revenez me voir après. Ouais, je comprends. Ça peut être un peu démoralisant quand t'as une liste de 300 idées de vidéos à regarder, de vidéos à faire pour toi.
Ouais, ouais, c'est ça. Et puis surtout qu'en plus, contrairement à ce que certains de mes abonnés pensent, je ne maîtrise pas tous les sujets que j'aborde en vidéo. Parce que vraiment, des fois, quand je rencontre des abonnés ou quand ils me parlent sur Instagram, j'ai l'impression que je suis une encyclopédie. Mais non, pas du tout. Chaque sujet, pour pouvoir faire la vidéo, je vais le creuser, je vais lire des thèses, je vais lire des études, etc. Et donc, en fait, quand je vois plein, toute une liste de sujets et que je me dis, oh, il n'y en a aucun où déjà je me sens à l'aise de base. Donc, ça veut dire qu'il faut que je fasse 1000 heures de recherche, là. Et en général, c'est un peu ça qui me déprime. Et qui fait que je vais avoir plus de mal à choisir les sujets. Alors que, par exemple, la fourbure, c'était déjà un sujet que je maîtrisais un petit peu. J'ai étoffé avec des recherches. Mais du coup, c'était plus facile à traiter. Et voilà. Le SME, par contre, c'est vrai que je connaissais les grandes lignes comme tout le monde, mais je ne connaissais pas en détail ce qui se passait dans le corps du cheval. Mais vu que j'avais déjà fait la fourbure avant, bah, j'avais déjà un pied dedans.
Oui, c'est un peu la continuité. Il y a des similarités.
Ouais, c'est ça. Ouais. Ils sont quand même étroitement liés les deux. Hein.
Ouais, il y a des points communs. Bon, en tout cas, il y a des connaissances anatomiques qui sont similaires.
Ouais. Et puis, c'est assez rare d'avoir un SME sans fourbure, quand même.
Et d'ailleurs, ça te prend combien de temps de faire une vidéo ? Par exemple, ta vidéo sur la fourbure, où tu dis que t'avais déjà un peu des bases, mais que t'as étoffé. Donc, combien de temps ça te prend de faire une vidéo ?
Alors, il y a des grandes étapes pour faire une vidéo. Il y a déjà tout ce qui est prise de notes, où là, c'est vraiment juste de la recherche, le maximum d'infos que je peux trouver. Vraiment comme si moi, en tant que juste moi-même, je voulais devenir une experte de la fourbure. Donc, je recherche toutes les infos que je peux trouver sur Internet, dans mes bouquins, dans mes anciens cours, voilà. Après la prise de notes, il y a la rédaction. Donc, c'est là que je structure, que je choisis dans quel ordre je vais aborder le sujet, quel chapitre je vais faire, quelle blague je vais pouvoir rajouter et où. Bon, en général, elles viennent plutôt instinctivement, mais, mais c'est important de mettre un petit peu d'humour pour pas que le sujet soit trop pompeux. Ensuite, il y a le tournage. Ah oui, j'ai pas dit le temps que ça me prend. La recherche, en général, ça doit me prendre peut-être entre 6 et 7 heures, je pense. La rédaction, peut-être 3 à 4 heures. Le tournage, ça me prend 2 heures. Même pour une vidéo de 10 minutes. Hein.
Parce que tes vidéos sont d'une durée de 15 à 20 minutes, je crois.
Ouais, c'est ça, à peu près. Ouais.
Une des plus longues doit faire une demi-heure. Je crois celle sur le pied, elle est assez longue.
Ouais, les deux sur le pied, elles sont assez longues, mais oui, c'est ça. J'essaye d'être entre 10 et 20 minutes, mais c'est pas toujours simple. Parce que je sais que 20 minutes, c'est long à regarder. Mais bon, il y a des trucs tellement intéressants, des fois, que je peux pas trop couper. Et donc, le tournage, même pour une vidéo de 10 minutes, moi, je vais avoir un rush. Donc, juste ce que j'ai filmé avec ma caméra, qui va durer peut-être 40 ou 50 minutes. Et c'est après le montage qu'elle fera que 10 minutes. Et il y a aussi tout le temps d'installation, d'installer les lumières, d'installer le décor. Parce qu'on dirait que c'est spontané comme ça, que juste je prends ma caméra, je prends un trépied et je filme. Mais non, je change les cadres de mon salon pour que ça soit raccord avec Minipat. Et puis, ouais, le réglage de la lumière et tout. Et ensuite, ranger, ce qui prend autant de temps. Donc, c'est pour ça, 2 heures de montage, de tournage à peu près. Et puis, le montage, ça dépend vraiment des vidéos. Mais en moyenne, ça me prend 2 jours de travail, donc dans 14 heures, si on dit que je fais des journées de 7 heures.
Ouais, donc là, t'arrives presque à 5 jours.
Ouais, bah, je peux pas faire... Enfin, je pourrais faire une vidéo par semaine si j'étais à temps complet dessus. Après, je pense qu'il y a aussi des choses où je pourrais gagner en efficacité. Évidemment, le montage, je suis pas monteuse pro, quoi. J'ai fait une formation de 2 jours avec des monteurs YouTube, ça fait pas de moi une professionnelle, quoi. Et puis, il y a aussi un autre truc qu'on oublie souvent, c'est toute la partie création de vignettes, les miniatures, là, sur YouTube. Écrire la description, trouver un titre, partager sur les réseaux sociaux, et ça te prend facile 1h30 en plus, quoi. Donc, quand t'exportes la vidéo et que tu te dis « Ah, ça y est, c'est fini !» Non, 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 c'est encore loin d'être fini.
Il va falloir encore montrer la vidéo au public.
Ouais, 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 c'est clair, c'est long.
Ouais, donc t'arrives vite, comme dit, sur une semaine de travail pour sortir une vidéo.
C'est ça, c'est ça. Et c'est vrai que, des fois je me dis, oh, si juste je faisais des vidéos divertissement où je vais juste montrer quand je vais promener mon cheval, ça serait tellement plus simple. Oui, mais c'est pas moi. Moi, je fais ça pour instruire.
Le but de toutes tes vidéos, c'est d'instruire les personnes.
Pour la majorité, oui, vraiment, peut-être 85% de mon contenu... c'est essayer d'apporter des connaissances supplémentaires aux gens. Et en fait, je dirais même plus que de la connaissance, de la compréhension plutôt que de la connaissance. Parce que moi, je m'en fiche qu'à la fin de la vidéo, les personnes qui l'ont regardé, je prends l'exemple de l'accrochement de rotule parce que c'est celui dont on parlait, donc c'est lui qui me reste à l'esprit. Et du coup, évidemment, tout le monde va aller voir cette vidéo catastrophique.
Non, mais on a parlé de la fourbure et du pied aussi.
Ah ouais. Alors, oui, bah, le pied, très bon exemple. Enfin non, parce que c'est que de l'anatomie. Non, vraiment, l'accrochement de rotule, c'est le meilleur exemple. Je m'en fiche que les gens ils retiennent que le ligament qui est responsable, c'est le ligament patellaire médial, et qu'ils se rappellent du nom, du relief, du condyle, du machin. Je m'en fiche complètement. Ce que je veux, c'est qu'ils comprennent le mécanisme et que ils soient capables de l'expliquer avec les mains en disant « Mais si, c'est qu'il y a un ligament qui se cache derrière, il s'accroche derrière un bout d'os qui dépasse et puis du coup, si le cheval, il peut pas retendre le ligament pour l'enlever, bah, la patte, elle reste bloquée. » Voilà, c'est tout, ça suffit. Je veux pas faire des experts, je veux faire des gens qui comprennent ce qui se passe. Et c'est souvent tellement plus simple de retenir quand on a compris.
Ouais, tu veux amener les gens à réfléchir et à comprendre par eux-mêmes, à assimiler bien le concept.
Bah ouais, c'est ça. Si juste on balance des cours théoriques chiants, personne ne retient rien, quoi.
Et toute cette pédagogie que tu as justement pour faire apprendre aux gens, tu l'as eue comment? Je trouve que tu es très bonne en vulgarisation, c'est-à-dire justement de faire comprendre des concepts compliqués et de les faire comprendre à des gens qui n'ont pas de notion dans ce concept, qui n'ont pas de connaissance dans ce concept.
Bah déjà, ça me fait très plaisir. Merci beaucoup. je sais pas trop. Je pense que c'est juste ma maman qui m'a expliqué comme ça depuis que je suis toute petite. Et... Parce que alors, moi, je suis née dans une famille de biologistes, déjà. Donc, je baigne dedans depuis que je suis toute petite. À 6 ans, je savais déjà ce que c'était qu'un ARN. Donc, voilà. Mais parce que ma maman m'a tout vulgarisé et tout expliqué super simplement, je pense que ça vient d'elle, hein. Merci, maman.
Remercie. Merci la maman d'Émilie. Si elle écoute ce podcast, merci à elle de nous avoir donné Émilie,
La
nous avoir
pédagogie.
éduqué Émilie. Donc tu nous as dit que Minipat apporte aux gens la compréhension de leur cheval. Et qu'est-ce que ça t'apporte à toi, Minipat?
Oh là là, mais c'est trop dur ta question là. Qu'est-ce que ça m'apporte à moi? Ben, je suis trop contente quand les gens me disent ah, j'ai enfin compris. Alors, c'est vraiment de la reconnaissance directe qui va dans mon cœur, illico presto, tu vois. De ah, mais en fait, c'est trop simple. Mais oui, c'est pas compliqué. Je me tue à vous dire que c'est pas compliqué quand on explique les choses simplement. Et voilà, juste qu'ils comprennent, moi, ça me fait trop plaisir. Après, c'est vrai que le but à terme, c'est pas juste qu'ils comprennent, c'est aussi que les gens, propriétaires, cavaliers, etc., agissent en connaissance de cause. Et disons que ce que je fais là dans la vulgarisation et tout, c'est un outil pour amener les gens à penser différemment le cheval. En fait, je pense que dans le milieu du cheval, il y a beaucoup de... Il y a un défaut de connaissance qui fait qu'on peut arriver à de la maltraitance banalisée, etc. Et ça, moi, c'est quelque chose qui me tient vraiment très, très à cœur. Ça se dit pas du tout. C'est quelque chose qui me tient très à cœur. Si, c'est ça.
Oui, ça se dit.
Et sauf qu'en fait, je peux pas... Enfin, c'est pas une bonne manière de prendre les gens frontalement et de leur dire « Tu vois ce que tu fais, c'est mal. » Il faut arrêter, ça marche pas. Ça, moi, on me l'aurait dit quand je montais en éperon, muserolles croisées, mort aiguille, et que j'allais faire des 95 avec mon cheval de 4 ans. On m'aurait dit ça, j'aurais dit non, mais en fait, toi, t'y connais rien du tout, parce qu'en fait, c'est comme ça qu'on fait. Hein. Et on
Moi,
sait
je
que
sais.
ça, mais oui, j'étais un peu ce genre de personne. Hein. Et on sait que ça ne marche pas. Être frontal avec les gens, ça ne marche pas. Le meilleur moyen, c'est que eux comprennent d'eux-mêmes en fait. Donc il faut planter des petites graines et juste expliquer tel truc et expliquer tel truc et expliquer tel truc jusqu'à ce que un beau jour tout se mette en lien dans leur cerveau et ils disent mais en fait ça va pas du tout d'agir comme ça. Et voilà, c'est un peu ça l'objectif à très long terme de Millipath, c'est d'essayer d'apporter toutes les clés de la compréhension du cheval pour que les gens se rendent compte d'eux-mêmes de pratiques qui sont malveillantes, etc., etc. Et pour les cavaliers et propriétaires qui sont déjà bienveillants, juste qu'ils comprennent mieux leurs chevaux, en fait.
Oui, eux, ça les assoit encore plus dans leur position.
Oui, c'est
Eux,
ça.
ils sont d'autant plus capables d'expliquer peut-être après à d'autres personnes pourquoi ils font ce qu'ils font.
Exactement. En fait, je crée des soldats.
Ton objectif est de militariser. C'est pour ça le
Millipatariser.
millipat. C'est pour ça le mili.
Là là! En fait, je suis le diable. Bonjour.
Bon, le diable qui veut que les chevaux aillent bien, quand même.
Oui, c'est vrai.
Oui, en effet, du coup, d'avoir plus de personnes qui comprennent pour après pouvoir encore plus aider les chevaux.
Ouais, c'est ça, exactement. Parce que, encore une fois, être frontal, ça marche pas. Et je l'ai été, hein, je m'en suis pris des désillusions en pleine tronche. J'ai dit, non, non, ça, c'est vrai que rentrer dans le lard comme ça, là, ça marche pas. J'en ai perdu des clients aussi, hein, comme ça, leur dire, mais c'est inhumain ce que vous faites!
Ah ouais.
Ah oui, non, mais avec des éleveurs bovins, vraiment, j'ai perdu tous les gens qui m'appelaient sur ma première année, ils me rappelaient jamais. Parce que je leur rentrais dans le lard. parce que un peu trop franche. Je suis très très empathique, vraiment avec les animaux, avec les humains aussi, mais quand c'est des pas gentils, bof. Mais mais avec les animaux, je suis vraiment très empathique. Et alors, je parle pas de tous les éleveurs. Hein. Il y a vraiment des éleveurs qui sont top avec leurs vaches. Là, je parle de moi, les vilains méchants pas beaux que j'ai rencontrés dans ma vie d'ostéo. Et voilà pourquoi. Et donc, j'ai remarqué, grâce à ces gens-là, que être frontal n'amène à rien. Donc, je prends la route parallèle.
Quand est-ce qu'on verra une vidéo sur les vaches ?
Je sais pas si on verra une vidéo sur les vaches. Je sais pas si ça va intéresser grand monde de ma communauté. Pourtant, franchement, les vaches, tellement sous-cotées, la vache. C'est aussi mignon qu'un cheval, quoi. C'est vraiment... C'est trop gentil. Et d'ailleurs, si vous avez besoin d'être convaincu de ça, je vous conseille d'aller voir le compte d'Éto-Diversité. Vous allez tomber amoureuse des vaches. Ça, c'est sûr.
Oui. Et surtout des grandes méchantes salers. Non, du coup, on va revenir... On repart du milieu bovin pour retourner vers le milieu équestre. Quelle place, est-ce que tu penses que Millipath a dans le milieu équestre, justement, pour essayer de convaincre les cavaliers et les propriétaires de faire le bien pour leurs chevaux? Et quelle place tu aimerais que Millipath ait?
Pour l'instant, je sais pas si ça a une grande place vraiment définie, hein. Mais en tout cas, j'espère au sein de ma petite communauté, j'espère être un peu rassurante et pas culpabilisante. Ça, c'est ma bataille du moment. Hein. C'est pas ma bataille de tout le temps, mais c'est ma bataille du moment parce qu'on dénonce beaucoup la maltraitance banalisée, l'hyperflexion, tout ça, les pieds nus, le machin. Et du coup, on se retrouve avec des propriétaires qui sont complètement perdus parce qu'ils savent pas quoi faire. Et donc, en ce moment, je me bats pour ne pas culpabiliser les propriétaires qui font de leur mieux.
Oui, parce qu'après, du coup, ils n'osent pas demander de l'aide.
Ben oui, c'est ça.
Et donc, ils ont tellement peur de demander de l'aide.
En fait, j'aimerais bien... j'avais jamais réfléchi à cette question comme ça, mais j'aimerais bien que Millipath, ce soit une safe place pour les humains bienveillants et pour les chevaux. Si les chevaux avaient Instagram, je pense qu'ils aimeraient bien me suivre.
Donc, un objectif est de créer un Instagram pour les poneys.
C'est une technologie entière à développer, là.
Ouais. Il y a vraiment quelque chose à faire. Ouais, donc du coup, d'être, comme tu dis, une safe place, c'est-à-dire que les gens se sentent en sécurité quand ils sont sur ton compte et qu'ils se sentent en sécurité en discutant avec toi, en discutant avec d'autres personnes qui sont sur ton compte.
Mais c'est ça. Surtout que je râle beaucoup dans mes stories. Même si j'essaye de pas être culpabilisante, je dénonce quand même les trucs qui m'énervent et je râle. Ça, vraiment, on peut pas dire que j'ai la langue dans ma poche, donc je râle. Mais en même temps, je suis toujours ouverte à la discussion, même avec des gens qui sont pas de mon avis. Et ça m'arrive tout le temps. Même la semaine dernière, j'étais au Normandie Horse Meetup. J'ai discuté avec des gens qui sont pas du tout du même milieu du cheval que moi, quoi. On est dans deux mondes parallèles, mais ça n'empêche pas qu'on discute et ça ne sert à rien d'aller au conflit, encore une fois, tu vois. On n'est pas d'accord, on le sait. Moi, je trouve terrible la manière dont il ou elle gère l'équitation, le travail des chevaux, etc. Je trouve que c'est abusif, que c'est de l'utilisation et tout, ou du harcèlement dans ces techniques. Mais en fait... ça va rien changer de rentrer dans le conflit, quoi. Donc, il faut rester ouvert pour parler avec les gens. Et de toute façon, si on commence à s'énerver, on décrédibilise toute la cause. Donc c'est vraiment la pire chose à faire. Donc, safe place aussi pour les gens qui sont pas du tout dans ce nouveau monde équestre. Parce que j'espère que la voie qu'on est en train de prendre, toi comme moi, sera le monde de l'équitation de demain. Mais en attendant, tout ce qui est au niveau équitation classique, etc., il faut qu'on soit accueillant et bienveillant pour ces gens qui arrivent, ces gens qui cherchent, qui se posent des questions. S'ils nous voient comme des Amazones avec du sang qui coule de la bouche parce qu'on vient de manger des cavaliers à éperons, ils vont certainement pas avoir envie de rejoindre notre cause, quoi.
Ils vont même pas avoir envie de réfléchir
à
la rejoindre.
Ah oui. Et puis en plus, franchement, c'est tellement plus compliqué d'être un propriétaire bienveillant que d'être un propriétaire d'équitation classique.
Un propriétaire ignorant, en fait.
Mais oui, c'est ça. C'est tellement plus compliqué de réfléchir, de se poser tout le temps la question. J'ai une très très bonne copine à moi qui s'appelle Angélique Rock, donc c'est aka Rock Horsemanship sur Instagram, qui passe tout son temps avec moi quand je vais à des salons ou des trucs comme ça. Et en fait, on en parlait en revenant du Normandie Horse Meetup, et elle me disait, en fait, depuis qu'on connaît les signaux de douleur, des signaux d'inconfort, etc., mais notre vie est un fléau, quoi. C'est vraiment, on est tout le temps en train de se poser un milliard de questions, mais pourquoi il a la paupière relevée, et là pourquoi est-ce qu'il a ça, et là pourquoi est-ce qu'il a ça, peut-être trop, tu vois.
Oui, on tombe dans l'autre extrême.
Mais oui,
on tombe de l'extrême, je ne savais pas voir mon cheval, à je le vois, et du coup je culpabilise à mort.
Mais oui, tout à fait. Et tu vois, au point que des fois, tu te poses la question de « Oh la vache, en fait, c'était mieux quand je savais pas tout ça, quoi. Mm. » Genre, l'ignorance était plus facile. Et puis, je m'amusais, j'allais en concours tous les week-ends, et puis, voilà.
Ça m'éclatait.
Bah ouais.
Moi, je m'amusais, j'avais l'impression que mon cheval s'amusait, tout était bien.
Exactement.
Et après, on peut trouver un équilibre.
Mais c'est ce que je recherche tous les jours.
C'est ce que tu recherches personnellement ?
Ouais,
ou tu recherches aussi ça, enfin, avec ton cheval. Tu nous en as parlé avec ton cheval.
Et ben, il s'appelle Trésor. C'est pas moi qui ai choisi le nom, calmez-vous.
C'est pas ton petit Trésor ?
Ah, mais si, c'est mon petit Trésor. C'est mon petit Trésou, même. Trésor. Oui, bah, c'est un trotteur de 2007. Donc, ça fait quel âge 2007 ? Ça fait 16 ans. Moi, j'arrêtais de compter à 5.
Ah ouais, arrêtez tôt.
Après, ça, il vieillissait trop vite. Et donc, je suis sa partenaire de vie depuis 2010. Donc, ça fait un petit moment maintenant. 13 ans, ouais. Et ben, on a fait des concours. Il a été ferré des quatre pieds en mort avec les éperons et le noseband et tutti quanti. Et puis, maintenant, il est monter une fois par mois, voire une fois toutes les 8 semaines parce qu'il est trop gros et qu'il faut qu'il fasse un petit peu plus de sport parce que j'ai pas le temps de le sortir en main autant que je voudrais, donc je me suis résolue à monter dessus pour pouvoir faire un peu plus de cardio. Il est pieds nus, sans mort, je l'ai dit, il vit sa meilleure vie de cheval, il m'accueille au pré avec des qui réveillent tout le quartier, chose qu'il faisait pas du tout avant. Donc ouais, il vit sa meilleure vie de cheval, mais évidemment que moi, ma vision de l'équitation et ma place dans l'équitation et tout, c'est, ça change tous les jours, ça change au fur et à mesure des connaissances que j'emmagasine, en fait.
Donc la place des personnes, enfin, les personnes qui voient tes vidéos, leur place va aussi changer au fur et à mesure des connaissances qu'elles vont acquérir.
Ben, j'aimerais bien. C'est la plus belle chose qu'on puisse me souhaiter, en tout cas.
De faire évoluer les gens.
Ouais, c'est ça.
De faire évoluer les propriétaires de chevaux pour que leurs chevaux soient mieux.
Ouais. Même si je ne les connais pas, moi, je souhaite le bonheur de tous les chevaux. Coucou la bisounours. Mais c'est très, très sincère.
Je veux que tous les poneys ils soient bien dans leur pré.
Oui, je veux qu'ils soient tous heureux.
Je comprends, je suis une bisounours pareil.
J'aimerais tellement que tous les chevaux, quand ils voient leur propriétaire arriver, ils se disent « Oh waouh, je veux passer un trop bon moment, elle va me faire des gratouilles, on va jouer, on va s'amuser tous les deux, ça se trouve on va galoper super vite et aller sauter des obstacles, et ça se trouve on va faire une balade en main et puis après on va courir dans un champ. » Mais que tous les chevaux, quand ils voient leur propriétaire arriver, se disent oh, « Je vais passer un trop bon moment. » Et ça va être un moment de partage, et pas juste un moment où ils donnent. Et je rêve que ça soit la vie de tous les chevaux, ça.
Moi, je rêve que tous les chevaux soient capables de faire ce qu'eux, ils ont envie. Quand ils aient le corps, qu'ils soient capables de faire ce dont ils ont envie.
Bah, et l'esprit aussi, hein, la quantité de chevaux en résignation acquise, quelle horreur.
Oui, qu'ils aient l'envie quand même de faire ce qu'ils ont envie.
Est-ce que tu as déjà fait un podcast sur la résignation acquise ?
Non, je ne pense pas.
Eh bien, je soumets cette proposition au vote du public.
Très bien, je soumettrai la proposition sur la résignation acquise. C'était très intéressant. Très intéressant. C'est quelqu'un qui a fait sortir son cheval de la résignation acquise.
Bah moi, Trésor, il était clairement résigné. Hein.
J'allais dire moi avec Alpha, ouais, en fait.
Bah ouais. Mais en fait, ouais, c'est... Beaucoup de chevaux montés en équitation classique, sauf ceux qui ont vraiment des très gros caractères de base et qui arrivent à passer outre toute la pression qu'on leur met dans tous les sens. Mais, et tu vois, même aujourd'hui encore, je me pose toujours la question quand je monte sur Trésor. Bon, alors j'avoue qu'en 2 ans, je suis montée 4 fois dessus. Hein. J'ai dit une fois toutes les 8 semaines. Mais...
Ouais, là, on vient de passer de une fois par mois à 4 fois en 2 ans.
Non, mais c'est parce que pendant 1 an et demi, c'était 0. Et là, j'ai fait un petit peu plus parce qu'il était gros et que j'avais pas envie qu'il devienne fourbu.
On a fait 4 fois en 6 mois, quoi.
Oui, c'est ça, à peu près. Et bah, tu vois, mais je lui ai appris, le premier truc que je lui ai appris en remontant dessus, c'est le stop button, le fait qu'il vienne toucher mon pied pour me demander de descendre. Et ça, il l'a très très vite compris. Et d'ailleurs, en général, les chevaux, quand ils le comprennent, ce truc, ils testent beaucoup pour dire « Hey, c'est vrai, ça marche, c'est vrai, ça marche. » Tiens, mais toute ma vie, je ne savais pas comment la faire descendre. Et en fait, il y avait juste un bouton, c'est ouf. Et je comprends, je serais pareil à sa place.
Non, mais moi, l'autre jour, enfin, je lui ai aussi appris au mien. Et en fait, je discutais avec quelqu'un. Il m'a touché le pied une fois. Vu que j'étais en train de discuter avec quelqu'un, j'ai pas vraiment remarqué. Il m'a touché le pied une deuxième fois. Et la troisième fois, il m'a mordu la cheville.
Ah ouais. Eh oh, qu'est-ce que j'ai dit?
Eh oh, je t'ai pas pu écouter.
Un cheval qui crie, on n'avait jamais vu ça.
Voilà. La dame m'a regardé, mais qu'est-ce qu'il vous a fait? Il m'a demandé de descendre un peu fort.
Ah, c'est marrant. Et donc du coup, ouais, je lui ai appris le stop button, mais malgré tout, à chaque fois que je monte dessus, je passe mon temps à me dire, est-ce qu'il accepte que je sois sur son dos, parce que vraiment, ça ne le dérange pas que je sois sur son dos et qu'il est OK pour qu'on aille faire une balade, ou est-ce qu'il me laisse monter sur son dos parce que c'est comme ça, parce que pendant 10 ans, je ne lui ai jamais laissé le choix de me dire « descends en fait ». Et est-ce qu'il le fait vraiment parce que, tu vois ce que je veux dire, est-ce qu'il le fait vraiment parce qu'il l'accepte, ou est-ce qu'il le fait par habitude et par « c'est comme ça, l'humain, il monte sur mon dos et puis c'est tout ».
De mon expérience, tu deviendras de plus en plus confiante au fur et à mesure où il te dira stop.
Ah bah oui, mais tu vois, même la dernière fois, je me suis pas posé la question une seule fois. Parce que quand on trottait, il était les oreilles en avant, il était trop content et tout. Vraiment une attitude de cheval content et en même temps à l'écoute, pas dans la fuite. Et j'en ai pleuré hein, pendant ma balade en me disant la vache, là j'ai vraiment la sensation qu'il est content qu'on trotte ensemble dans nos chemins en herbe là. Mais même si ça fait des années que je suis plus dans le circuit classique de l'équitation, je continue de me demander est-ce qu'il n'y a pas un fond de résignation tout le temps. Donc on revient à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est plus simple d'être ignorant.
Oui, c'est plus simple. Ouais, je pense que d'ici un an, tu reverras peut-être et tu te diras ouais, en fait, on était en résignation encore un petit peu, ou justement non.
Mais oui, c'est sûr.
Ça demande du temps.
Tout ça, ça évolue tout le temps et c'est vraiment très propre à chacun et à l'expérience et à la connaissance, etc. Et mes discours du début de Millipath, c'est plus du tout les mêmes que ceux qu'il y a maintenant et ce sera pas les mêmes dans 2 ans parce que moi aussi j'apprends des choses et que je suis tout le temps en train de réfléchir, remettre en question tout ce que je sais. Donc forcément, c'est des choses qui évoluent et je suis une propriétaire comme les autres, quoi.
Oui.
Il ne faut pas l'oublier.
Oui, t'es une humaine, t'es propriétaire d'un cheval, t'es cavalière, enfin,
bah ouais.
Comme une autre.
Exactement, donc forcément que mes croyances et mes ambitions bah, échangent au fur et à mesure de la vie, comme tout le monde.
Comme tout le monde. Et justement, il n'y a pas longtemps, t'as fait un gros changement.
Ouais.
On enregistre cet épisode fin septembre 2023, au cas où on replace dans la chronologie. Et justement, il n'y a pas longtemps, t'as fait un gros changement. Est-ce que tu peux nous en parler?
J'ai fait un très gros changement. Alors déjà, je te remercie, avant de dire à tout le monde, je fais un peu de teasing, je te remercie Audrey, parce que je ne sais pas si sans toi et la cavalcade, je ne sais pas si j'aurais eu le cran de faire ce que j'ai fait. Donc, merci beaucoup.
Oh oui, je vais encore chialer.
Donc début septembre, j'ai décidé d'arrêter d'enseigner dans l'enseignement supérieur, donc en ostéopathie animale, pour me lancer à plein temps dans Millipat. Alors je garde quelques consultations d'ostéopathie animale, mais ça fait 2 ans que j'ai vraiment ralenti, parce que, c'est vrai qu'on n'en a pas parlé, parce que j'en avais marre de voir des chevaux mal. Et j'arrivais pas à sélectionner ma clientèle. Donc j'ai dit, j'arrête tout et je continue que ceux dont je suis sûre. Donc voilà, je dois faire 5-6 consultes par mois, mais bon, ça met du beurre dans les épinards, comme on dit. Mais c'est tout. Et donc j'ai décidé de me lancer à 100% dans Millipat. C'est-à-dire, créer plus de contenu sur Instagram, même si je suis quand même à peu près régulière ces derniers mois, mais surtout créer plus de contenu sur YouTube, parce que là, il y avait clairement du laisser-aller avec une vidéo par trimestre, donc je me recentre un petit peu pour être un peu plus régulière sur les vidéos. J'ai lancé une newsletter, donc tous les mois, je vous donne des actus de moi, de ce que je vis dans la vie de tous les jours, mais aussi des événements qui sont intéressants sur le mois, d'articles que j'ai trouvés pertinents, voilà. Tout ce qui me passe par la tête, je vous le partage. Donc ça, vous pouvez vous inscrire sur mon site si vous voulez, millipat.fr. Et surtout, j'ai lancé des webinaires de Millipat. Et c'est pour ça que je vous dis que sans la cavalcade, ça n'aurait pas été possible. Parce qu'avant, j'étais pas très confiante sur animer un webinaire de 1 heure. Et grâce à Audrey, j'ai pu voir que c'était un exercice que j'aimais beaucoup, beaucoup, beaucoup. En même temps, c'était presque évident que j'allais bien aimer, puisque j'adorais donner des cours à l'école. J'aime faire des vidéos. Et là, en plus, y a pas de pression de faire pour quelqu'un d'autre, pour un établissement ou quoi. Donc j'ai lancé les webinaires de Millipat. L'idée, c'est que chaque mois, vous puissiez retrouver des webinaires avec des thématiques similaires ou différentes du mois d'avant, animés par moi et animés par des intervenants. Par exemple, pour les prochains webinaires, donc là, demain, il y a le système nerveux auquel Audrey participe. Système nerveux et les douleurs projetées chez le cheval. La semaine prochaine, on a biomécanique statique, comment le cheval tient-il debout. La semaine d'après, on aura de l'anatomie digestive. Et la semaine d'encore après, on aura la première intervenante des webinaires qui sera Angélique Descarpenteries pour nous parler physiologie digestive, etc. Sont prévus aussi du comportement, des signaux, les fameux signaux d'inconfort qu'on aimerait bien ignorer. Et ben on va en parler, on va aussi parler de la vue du cheval, on va parler de plein de trucs. L'idée, c'est que ce soit des webinaires un peu à la carte, comme au restaurant. Le petit restaurant en bas de chez toi qui change de menu toutes les semaines, et ben j'aimerais bien que ce soit un peu ça. C'est « Oh, t'as un peu de sous de côté ce mois-ci, et bah tiens, on va aller voir sur le site de Millipat, qu'est-ce qu'elle propose ce mois-ci, et hop, je m'inscris à un webinaire, et voilà. » Parce que oui, tout mon contenu est gratuit, sauf les webinaires qui sont du coup payants à hauteur de 25 euros. Parce qu'il faut bien que je mange, finalement. Je continuerai évidemment de créer du contenu gratuit sur YouTube et Instagram, et dans la newsletter qui est gratuite aussi, mais par contre, les webinaires seront payants.
Il faut bien acheter des carottes à Trésor.
Bah exactement, faut bien continuer de l'engraisser pour qu'après je sois obligée de le monter pour aller en balade là et de me poser 10 000 questions pendant que je suis sur son dos. Et je voulais dire un dernier truc et j'ai oublié, ah oui, tous les webinaires ils sont en groupe réduit, c'est-à-dire que c'est vraiment des petites réunions entre 12 et 20 personnes maximum. Pour moi ce sera toujours entre 12 et 15. Certains intervenants peuvent choisir de monter jusqu'à 20 personnes, mais je m'engage à ce que ce soit jamais plus. Pourquoi ? Parce que c'est pas toujours simple quand on est en ligne comme ça, avec des gens qu'on connaît pas et tout, de poser des questions, surtout s'il y a plein de gens, et le chat c'est pas forcément facile, et puis si on doit interagir, et ben c'est compliqué. Donc du coup, des petits groupes réduits comme ça, ça permet de faciliter les échanges, et surtout d'avoir du temps pour répondre à toutes les questions de tout le monde. Donc c'est quelque chose qui me tient vraiment vraiment à cœur de pouvoir échanger avec les gens, de pouvoir prendre 5 minutes à la fin pour parler des problématiques d'un tel ou d'une telle, Et voilà, et j'ai trop hâte, et c'est demain. Et c'est trop cool. Bon, alors, pour vous qui écoutez ça vendredi, c'était mardi dernier.
C'était il y a 3 jours.
Mais du coup, si vous écoutez ça là, si vous écoutez ça du coup au vendredi, il y a sûrement 2 nouveaux webinaires qui sont sortis, et peut-être encore de la place pour le 6 octobre.
Du coup, tu les annonces en fait en début de mois, tu annonces les webinaires du mois, c'est ça ?
Ouais, je les annonce déjà en début de mois sur la newsletter, même s'ils sont quand même susceptibles d'évoluer si jamais il y en a un qui se rajoute ou quoi. Je les annonce une fois sur Instagram, et bon, là, j'ai pas vraiment eu besoin de les annoncer plus. Là, j'ai eu un désistement, donc j'ai 2 jours avant, donc je l'ai remis en story. Mais clairement, quand je les annonçais début septembre, en 48 heures, il était complet. Donc,
si les gens veulent y participer, ils s'inscrivent à la newsletter, parce que comme tu dis, il y a un nombre de places réduit, et donc tu l'annonces en premier sur la newsletter.
Ouais, mais après, les événements, ils sont... Enfin, si vous allez sur millipad.fr régulièrement, vous verrez quand les nouveaux événements seront publiés.
Et si vous avez une mémoire de poisson rouge et que vous avez besoin de recevoir un truc, comme voilà. Moi,
tout à fait.
Si vous avez besoin de recevoir un mail,
un petit mail de rappel, la newsletter est faite pour ça. Pas que, mais en partie.
En partie pour ça. En effet, tu partages d'autres news dans ta newsletter.
Ouais, aussi mon cheval, mes chats, les événements, autant des webinaires sur d'autres plateformes. Je mets en avant d'autres plateformes. Voilà, je partage tout, un peu tout ce que j'aime et tout ce que je trouve un peu lourd à mettre sur Instagram, mais qui est quand même sympa à savoir pour les gens qui ont envie de me suivre d'un peu plus près.
Oui, des choses qui se disent pas en 2 stories, quoi.
Ouais, c'est ça. Et des trucs où j'ai pas envie d'en faire une vidéo, quoi.
Des choses trop longues pour être mises en story et trop courtes pour être en vidéo.
Après, j'ai pas encore testé et je pense que je vais le faire au mois d'octobre. Hein. Mais je pense que la newsletter, c'est aussi un bon moyen de dépasser un peu les limites que j'ai fixées à Insta. Tu vois, le fait de râler, oui... mais pas trop, et quand même garder de la distance et pas faire de conflit d'intérêts, nanana, et être politiquement correct, en quelque sorte.
Ça, c'est les limites que tu t'es mises sur Instagram.
Ouais, et je pense que, enfin en tout cas, c'est ce que je me suis dit en créant la newsletter, que j'allais passer plutôt à travers ces barrières-là et d'être un peu plus franche. Et... Parce que, tu sais, même quand... Si je veux vivre de Millipad, il faut quand même que je me fasse pas trop d'ennemis, tu vois. Je veux dire, pas trop d'ennemis dans les personnalités influentes ou dans les marques, etc., etc. Donc, il y a des choses que je peux pas forcément dire en story, même si j'aimerais. Souvent, j'ai des abonnés qui m'envoient des réels d'une écurie. Alors, je vais pas dire les noms parce que là, pareil, même problème, mais c'était juste après ma vidéo sur l'hyperflexion. On m'envoie un réel d'une super école d'équitation basée sur le comportement et tout, vraiment avec des méthodes que j'aime beaucoup et tout. Et le cheval en hyperflexion pendant tout le réel. Et je me dis, ça, franchement, c'est nul parce que le compte Insta est trop bien et il y a vraiment plein de choses à apprendre. Et oui, ce réel-là, ça fait partie des choses que j'aurais dénoncées habituellement, mais là, je le fais pas parce que tout le reste du contenu est tellement qualitatif. Mais du coup, sur la newsletter, je peux me permettre de dire « Eh, franchement, ça, c'était pas cool. J'ai pas aimé. »
Oui, parce que t'es dans un milieu un peu plus intimiste.
Exactement. À huis clos.
Un peu plus à huis clos, en effet.
C'était très long pour expliquer une chose si petite.
Ah non, c'est pas si petit. Les webinaires que t'as prévus sont pas si petits. Bah écoute, merci beaucoup.
Merci beaucoup à toi
pour ça. Je rappelle que du coup, je mets les liens en description de l'épisode. Donc les gens peuvent te retrouver en description de l'épisode. Les écouteurs. Podcast. Pareil, c'est encore pire.
Hein. On peut pas dire les podcasteurs. Non, c'est toi la podcasteuse.
Ça s'appelle des auditeurs.
Oui, c'est vrai.
En vrai, c'est un bon. Les auditeurs. Donc, les auditrices, même, peuvent retrouver ça. Enfin, peuvent retrouver tes liens.
Retrouver ça, c'est-à-dire moi.
C'est ça, là. Alors, vous n'avez pas la vidéo, mais c'est ça. Non, les auditrices peuvent te retrouver via les liens que je mets en description de l'épisode. Donc, YouTube, Instagram et ta newsletter qui est via ton site internet. Eh ben, écoute, merci beaucoup, Émilie, pour cet échange.
Merci à toi, c'était trop cool.
Merci pour ton temps. Oh, si je choisis des mots compliqués en plus.
Authenticité, le mot.
Oui, c'est ça. Merci pour ton authenticité. Non, ça marche pas. Merci pour ton authenticité. J'ai réussi.
Oui, bravo.
Ouais, j'ai réussi.
Ben non, merci à toi, c'était vraiment trop cool. Et je suis, en effet, comme tu disais dans ton introduction, très contente que tu ne m'aies pas invitée pour parler d'ostéopathie, parce que il y a tellement d'autres trucs plus intéressants. Pourtant, c'est mon métier, hein.
Mais plus vaste.
Il y a vraiment d'autres trucs plus intéressants à dire.
Et ben écoute, j'en suis ravie. Donc, merci beaucoup.
Merci.
Et à très bientôt.
Oui.
Et voilà, c'est la fin de cet épisode du podcast Murmuréquin. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à venir me le dire sur Instagram ou par mail. Vous pouvez aussi partager l'épisode à une personne qui veut en apprendre plus sur les chevaux. Et si vous avez envie de soutenir un média qui a comme ambition de propager le savoir au plus grand nombre et ainsi d'améliorer la vie de nos compagnons à crinière, vous pouvez le faire dès aujourd'hui en faisant un don sur le compte Tipeee du podcast Murmuréquin. Je vous laisse donc le lien de mon compte Tipeee dans la description de cet épisode et je vous remercie au plus profond de mon cœur si vous m'aidez dans le projet fou de ce podcast qui est de rendre le savoir équin toujours plus accessible pour tout le monde. On se retrouve vendredi prochain pour un nouvel épisode. À bientôt!